Ton réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux.
Comment 6 heures ?
Bonjour à toutes, bonjour à tous. On continue la fête de la musique, si vous voulez bien. Depuis lundi, le musicologue Denis Morier nous raconte une brève histoire de la musique savante occidentale dans un instant, le troisième épisode. Et puis en deuxième partie, nous allons fêter comme il se doit la ressortie du film de Spike Lee, Do the Right Thing, avec une version remasterisée. Spike Lee, qui est au centre d'un ouvrage de mon invité de deuxième partie, Karim Madani, auteur de Spike Lee, American Urban Story. Donc, on entendra du rap à la fin de cette demi-heure. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de votre fidélité. Nous sommes le mercredi 22 juin 2016. Un autre jour est possible. C'est parti. Une brève histoire de la musique savante occidentale par Denis Morier qu'on retrouve. Bonjour.
Bonjour.
Troisième épisode du baroque et du classicisme en musique. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre, Denis Morier ?
Eh bien, c'était la pièce d'ouverture des Vêpres de la Vierge de Claudio Monteverdi, le Deus in Adiutorium. Cette pièce, qui est une des pièces les plus fameuses du XVIIe siècle, est une véritable révolution. Elle date de 1610 et elle est une pièce a priori liturgique, elle sert à ouvrir des vêpres, mais pourtant on y entend une fanfare instrumentale, on y entend des voix. Pour la première fois par rapport aux épisodes précédents, si vous les avez écoutés hier et avant-hier, eh bien nous avons des voix et des instruments qui font des choses complètement différentes. Et ici, en effet, ces instruments font une fanfare qui n'est rien d'autre que la toccata d'ouverture d'un opéra qui est l'Orfeo de Claudio Monteverdi que nous avions entendu déjà hier.
Est-ce à dire, Denis Morier, qu'à ce moment-là, à partir de 1610, on considère la voix comme un instrument de musique ?
Eh bien, disons que c'est plus subtil que cela encore. On considère que la voix a ses caractéristiques propres, que les instruments ont leurs caractéristiques propres, et que la voix peut imiter les instruments de la même manière que les instruments peuvent imiter les voix. Nous allons avoir deux styles qui vont être, on va dire, distincts, mais qui pourront, en effet, s'imiter l'un l'autre. Alors, à travers cette musique, qui est considérée comme l'une des pièces, on va dire, emblématiques de la musique moderne, de la modernité du XVIIe siècle, eh bien, s'ouvre ce que l'on appelle aujourd'hui l'époque de la musique baroque. Nous allons revenir sur ce terme de musique baroque, parce qu'en effet, c'est un terme qui est d'un emploi relativement récent. Moi-même, dans ma jeunesse, c'est un terme qu'on n'employait quasiment jamais. Et, par exemple, Claudio Monteverdi était considéré comme un auteur classique. Alors, on peut se poser la question de qu'est-ce que c'est que ce terme de baroque et qu'est-ce qu'il vient faire par ici? Et j'allais dire, la musique qui va venir maintenant va peut-être illustrer un petit peu ce propos. Thank you.
Dictionnaire de musique de Jean-Jacques Rousseau, 1767. Baroque. Une musique baroque est celle dont l'harmonie est confuse, chargée de modulation et de dissonance, le chant dur et peu naturel, l'intonation difficile et le mouvement contraint. Il y a bien de l'apparence que ce terme vient du barocco des logiciens.
Texte lu par Barbara Carlotti. Merci Barbara Carlotti qui elle aussi est avec nous depuis lundi et qui va continuer à nous accompagner toute cette semaine consacrée à la musique. Cette définition de Jean-Jacques Rousseau date de 1767, Denis Morier.
C'est en effet la première définition que l'on trouve à l'adjectif baroque dans un cadre musical. Et vous voyez que, bien entendu, c'est une définition qui ne colle pas du tout à ce que nous, on imagine aujourd'hui être de la musique baroque. Il ne faut pas oublier que ce terme, en fait, est un terme qui, au XVIIe ou XVIIIe siècle, est un terme péjoratif. Et donc, lorsque Rousseau veut le définir, il définit, en effet, une mauvaise musique. Et en fait, ce terme de baroque nous vient d'un emploi, je dirais, très récent, qui remonte au XIXe siècle, qui est fait en Allemagne par des historiens de l'art, en particulier Burckhardt ou Wölfflin, qui ont voulu désigner une forme, on va dire, de développement artistique qui aurait suivi le classicisme. Pour ces auteurs-là, le classicisme, c'est l'art de la Renaissance, celui de Michel-Ange, de Raphaël, par exemple. Et donc, l'art de la fin de la Renaissance, qui pour Burckhardt en particulier était une forme de dégénérescence de la perfection de la Renaissance, a pu être qualifié de baroque. Alors, pour les historiens de l'art, la période qui se développait entre 1580 et 1650 a pu être considérée comme une période dite baroque, avec des artistes comme Borromini en architecture en particulier, et les musicologues de l'aube du XXe siècle, en particulier en Allemagne, ont repris cette terminologie et en glissant, on va dire, du domaine de l'esthétique, du stylistique, vers une notion purement chronologique et vont en venir à se dire que la musique composée après 1580 serait baroque. Bien entendu, pour nous Français, ça devient très problématique parce que le XVIIe siècle, c'est le grand siècle, c'est le siècle de Louis XIV, et l'art versaillais est pour nous, par définition, un art classique. Nous ne dirons jamais que Racine est un auteur baroque. C'est le modèle même du classicisme. Et l'on en vient à cette forme d'aberration aujourd'hui de considérer que vivent au même moment une musique baroque et une littérature classique. Donc tout cela est bien compliqué. D'autant que l'on pense que Burckhardt, pour lui, pour les premiers théoriciens, le classicisme était antérieur au baroque. Et nous, en musique, nous considérons aujourd'hui que le style classique, c'est celui de Mozart, de Haydn, de Beethoven, et donc il est postérieur au baroque. Bref, il y a une confusion extrême dans l'emploi de ces termes, et cela mériterait peut-être d'être un petit peu clarifié dans les temps à venir.
Alors bien sûr, surtout vous qui êtes spécialiste de la musique baroque. Alors aujourd'hui, quand on dit spécialiste de la musique baroque, qu'est-ce qu'on y met ?
Alors, en ce qui me concerne, moi je me considère plutôt comme un spécialiste de la musique du tournant, on va dire, de la Renaissance et du baroque, et qui s'intéresse à la mutation des langages musicaux à cette époque-là. Parce qu'en effet, c'est la principale caractéristique de cette époque, c'est que le langage musical connaît une profonde mutation. Et cette mutation, elle s'explique en particulier d'un point de vue politique, à travers des musiques comme celles qu'on va entendre maintenant. Thank you.
Denis Morier, elles étaient bien les fêtes de la musique à l'époque de Louis XIV à Versailles.
En effet, nous venons d'entendre vraiment une musique qui est emblématique du goût français du grand siècle. C'est l'ouverture de l'opéra Attis, de la tragédie en musique, plutôt Attis, donc de Jean-Baptiste Lully. Jean-Baptiste Lully, à travers le cinéma, nous avons appris à connaître cette figure qui est en effet le musicien emblématique de Louis XIV. Et en effet, plutôt que de parler de musique baroque, personnellement, je m'intéresse plutôt à cette influence qu'a pu avoir la pensée absolutiste sur le développement des formes musicales. Les formes musicales, les procédés d'écriture tout au long des XVIIe et XVIIIe siècles sont imprégnés d'une pensée rhétorique. C'est-à-dire que l'on doit convaincre l'auditeur. Et pour ce faire, eh bien, l'on a une idée force, et cette idée force, elle est un petit peu comme la pensée autocratique. C'est-à-dire que j'ai raison, je dois vous convaincre, ce que je cherche à vous transmettre est la vérité. Et à partir de là, je vais user d'arguments qui vous vont permettre de comprendre à quel point ce que je dis est bien. Et en effet, on va se rendre compte qu'un grand nombre de formes musicales qui sont encore vivantes aujourd'hui, donc se développent à cette époque-là, l'opéra, l'oratorio, mais aussi dans les musiques instrumentales, la sonate, le concerto. Et à chaque fois, par exemple, si l'on écoute un concerto du XVIIe siècle ou du début du XVIIIe siècle, on sera étonné de remarquer qu'on a un thème qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, et que l'on réentend à la fin comme on l'avait entendu au début. Si tout le monde a en tête peut-être les quatre saisons du Vivaldi, quand on a pam 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 pa di da dam, ta da dam pam pa di da dam, cette chose devient une forme de ritournelle qui revient et qui, en effet, devient le thème unique. On parle souvent de forme monothématique à cette époque-là. Ce monothématisme qui se développe au XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle est bien entendu à rapprocher de cette vision autocratique, à cette vision du pouvoir absolu qui se met en place à ce moment-là. Alors, la musique baroque, par ailleurs, la musique du XVIIe ou du XVIIIe siècle, a une autre particularité, c'est qu'elle voit se développer une nouvelle conception qui va distinguer des goûts nationaux. La musique que nous avons entendue, celle de Lully, elle est emblématique du goût français. À la Renaissance, il est assez difficile de dire « Tiens, ça c'est de la musique allemande, tiens, ça c'est de la musique italienne ». À partir du XVIIe siècle, les compositeurs vont prôner des goûts. C'est le terme que l'on emploie. Il y a un goût français, un goût italien, qui sont les deux goûts dominants. Et à l'arrière, on peut pratiquer ce qu'on appelle les goûts réunis, c'est-à-dire, comme le dit Couperin, mêler un petit peu de goût italien et de goût français, surtout lorsqu'on est anglais et allemand.
Alors, quel rapport entretenaient les compositeurs avec les politiques? Parce que j'ai l'impression, en écoutant un peu vos arguments, Denis Morier, que cette musique versaillaise jouait aussi le rôle d'un hymne national, en quelque sorte.
C'est assez vrai. Il ne faut pas oublier que nous parlons de musique savante, exclusivement, celle qui nous est transmise par l'écriture. Il faudra toujours revenir à cette notion-là. Et cette musique savante, en effet, est toujours pensée dans des cercles privilégié, ce qui la distingue de la musique populaire, est toujours très proche des sphères du pouvoir. Or, les musiciens savants auront toujours le statut, on va dire, de serviteurs, dans le sens le plus noble qui soit. Ils sont soit au service, on va dire, d'une institution ecclésiastique, ou au service d'un prince, ou au service d'un particulier. Donc, dès lors, il va y avoir une relation entre pensée dominante, entre la pensée politique, mais aussi l'économie, qui va avoir un rôle prégnant sur la manière de concevoir la musique.
Mais aussi, et ça fait écho à ce qui se passe aujourd'hui, de musique identitaire. Parce que là, vous dites, on reconnaît tout de suite, c'est Versailles, c'est le goût français.
Tout à fait. Et en effet, certains goûts vont se développer par opposition, on va dire, au goût dominant. Et donc, en effet, l'Italie voit depuis, on va dire, l'aube du XVIIe siècle, je dirais, une nouvelle musique. C'est le terme même qu'emploient les compositeurs de cette époque-là. Ils parlent de « nuove musique » et de « nuova maniera ». Vraiment, c'est une revendication très forte de parler d'une musique qui les caractérise. Et ces musiciens, par exemple, vont développer des formes qui vont être, d'ailleurs, tellement identitaires qu'on les dénomme par des noms qui sont dans leur langue. On dira opéra, on dira concerto, un concerto, tout cela c'est de l'italien, ce n'est pas du français. Les Français appelleront cela à cette époque-là des concerts, mais nous restons sur cette notion de concerto. Et donc, je vous propose d'ailleurs d'entendre maintenant un concerto de Corelli, illustré par des textes anglais qui remettent en question cette notion de style. Thank you.
Extrait du journal de Samuel Pépiz. 7 avril 1667. Je suis de plus en plus convaincu que chaque nation ayant un accent et une intonation propre à sa langue, le chant doit aussi être différent. Mieux la musique est adaptée aux paroles, plus elle a l'intonation habituelle à la langue. De sorte qu'un air bien composé par un anglais paraîtra toujours meilleur à un anglais qu'un air écrit sur des paroles étrangères par un étranger.
Vous venez d'entendre un texte de Samuel Pépiz qui, en effet, en Angleterre, qui se trouve à la fin du XVIIe siècle coincé entre le développement du goût français et du goût italien, et qui voit subitement dans sa patrie des musiciens italiens qui viennent révéler la musique italienne, des musiciens français versaillais qui étaient avec les Stuarts en exil et qui reviennent aussi, qui amènent le goût français. Eh bien, il essaye de rappeler que la musique anglaise doit être pratiquée par des Anglais. Et tout cela était entendu au son d'une musique totalement italienne, qui était le concerto pour la nuit de Noël d'Arcangelo Corelli.
On se retrouve demain pour la suite de cette brève histoire de la musique savante occidentale en compagnie de Denis Morier. Et demain, on parlera du siècle romantique et de ses paradoxes. À demain, Denis Morier.
Au revoir.
Un autre jour est possible. Par Toufik Hakem. Tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel.
Et mon invité aujourd'hui est Karim Madani. Bonjour.
Bonjour.
On vous a beaucoup entendu sur France Culture ces dernières semaines, à l'occasion de la sortie de votre dernier livre consacré à Kanye West. Mais aujourd'hui, je vous ai invité pour un autre livre que vous avez fait paraître il y a quelques années autour de Spike Lee. Et vous devez deviner pourquoi je vous ai invité particulièrement ce mercredi. C'est parce que son film, j'allais dire son film phare, son film manifeste, Do the Right Thing, ressort en version restaurée. Et effectivement, revoir aujourd'hui ce film permet de dire que pas grand-chose, finalement, n'a vraiment changé aux États-Unis, parce qu'on a vraiment l'impression de revivre Ferguson en revoyant Do the Right Thing.
Oui, complètement. Et même, plus que Ferguson, c'est plus l'affaire Errol Garner à Staten Island, parce que si on regarde bien le film, la mort ou l'assassinat de Radio Rahim par les flics dans Do the Right Thing, c'est exactement ce qui s'est passé l'année dernière, en 2015, à Staten Island, où Errol Garner, un vendeur de cigarettes un peu à la sauvette, a été étranglé par des flics du NYPD dans un banal contrôle d'identité, enfin pas un contrôle d'identité parce que les contrôles d'identité n'existent pas, mais en tout cas un contrôle suite à cette vente de cigarettes illégale. Et du coup, il a été étranglé par les flics selon des méthodes déclarées illégales déjà depuis 83, de la même manière que le personnage de Spike Lee meurt dans le film. Donc c'est vrai que c'est assez troublant. Puis après, effectivement, comme vous le soulignez, Ferguson, Cleveland, une série de bavures policières qui nous font penser que finalement c'est toujours encore là.
Voilà, mais résumer Do the Right Thing en disant que c'est un film sur les bavures policières à New York, dans les quartiers populaires de Brooklyn, c'est aller vite en besogne, parce que c'était un film manifeste, un film qui voulait d'abord imposer la culture hip-hop.
Ouais, tout à fait, ouais. Oui, c'est parce que en fait, disons que on peut pas comprendre, enfin c'est intéressant de comprendre le climat dans lequel a été fait le film. C'est vrai qu'en 88, il y avait eu différentes bavures dont j'en parle dans le bouquin, Spike Lee. Il y a eu des jeunes noirs qui se sont fait assassiner par la police, mais c'est pas c'est le point d'orgue du film à la fin, l'assassinat de ce personnage qui s'appelle Radio Rahim, qui est incarné par Bill Nunn. Effectivement, 89, Do the Right Thing, ouais, voilà, c'est l'émergence du premier, on va dire. Nola Darling avait un peu esquissé ça, mais Do the Right Thing est vraiment le premier film hip-hop, de la culture hip-hop, de la génération hip-hop des années 80.
Pourquoi? Parce que déjà le son hip-hop est présent dans ce film?
Ouais, complètement, et notamment par le générique signé Public Enemy, donc la chanson mythique Fight the Power. Il faut savoir que cette chanson a été produite par le Bomb Squad. Et le Bomb Squad, en fait, c'est des artificiers sonores, donc c'est un groupe de, ils sont 3-4 mecs, et ils ont utilisé pour faire ce morceau pas moins de 90 samples pour faire ce morceau. Another summer, sound of the funky drummer, music hitting your heart, cause I know you got soul. Hey, listen if you're missing y'all, swinging while I'm singing, hey, giving what you're getting, knowing what I know in, while the black band's sweating, in the rhythm I'm rolling, gotta give us what we want, gotta give us what we need, hey, our freedom of speech is freedom of death, we got to fight the powers that be, fight the power. Alors, pourquoi ce film est important pour vous, Karim Madani? Bah, déjà, à titre personnel, moi, c'est un film qui m'a... J'ai grandi dans la culture hip-hop à Paris, à la fin des années 80, début des années 90, donc j'ai été pris un peu dans cette vague. C'est un film à la fois, je pense que c'est aussi la naissance d'un grand cinéaste, aussi comme Scorsese était un... Pour la communauté italo-américaine, je pense que pour la communauté afro-américaine, Spike Lee était le cinéaste représentatif. Et puis je pense que c'est une esthétique un peu unique, qui nous a tous un peu marqués dans le style de vie, le lifestyle, ne serait-ce que pour les baskets, Jordan en l'occurrence. Enfin, il y a tout un pan de la culture qui a touché la France, pas que la France, hein, tous les pays en fait. Enfin, pas mal de pays occidentaux ont été et aussi après des pays africains, des pays du Maghreb ont été touchés en fait par cette espèce de vague de touches que Spike Lee a ramené, qui était un peu unique en son époque.
Alors Spike Lee réalisera plus tard Malcolm X, il se considère comme un cinéaste engagé. Quels sont les engagements de Spike Lee?
Bah, disons que c'est lui, enfin sociologiquement parlant, il est issu de la bourgeoisie noire, avec des parents, avec un père musicien, une mère qui était prof, il me semble. Il vient d'un quartier assez cossu de Brooklyn. C'est un mix en fait, il est très influencé par Farrah Khan quand il fait le film Girl on the Bus. En même temps, Malcolm X, c'est vraiment il perpétue aussi cet héritage. Il est à la fois, mais en même temps, Spike Lee, c'est étrange, c'est un mélange de militantisme, de business, de folklore. Il est vraiment, c'est un cinéaste engagé, mais c'est aussi quelqu'un qui est, je pense que c'est aussi un auteur. Donc à la fois, je pense que à l'intérieur même de Hollywood, il a trouvé ça, il a réussi à trouver une espèce de militantisme, en tout cas, une description juste et fidèle. Et revendicatrice de la société noire, mais en même temps, c'est quelqu'un de très ouvert, parce que quand on regarde ses films, finalement, les problématiques blanc-noir souvent se mélangent. Là, je parlais de la 25e heure, mais différents films. Et du coup, on peut pas réduire Spike Lee juste à un militant noir. Son cinéma est avant tout un cinéma, je pense, un cinéma d'auteur, de story. C'est un storyteller, il raconte des histoires avant tout. Mais très, 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 comment dire, irrigué dans ce terreau-là de la communauté noire et des combats, des avancées, notamment sur la femme, la femme noire, girl sex. Les homosexuels, une partie un peu dans Girl on the Bus, c'est quelqu'un qui a aussi bossé sur pas mal des relations interraciales dans Jungle Fever. C'est quelqu'un qui a vraiment sur la fac, la position des étudiants noirs dans les États-Unis, School Days. Donc c'est quelqu'un qui a touché un peu vraiment à tout. C'est assez éclectique.
Ouais. Et qui a fait un peu le tour de New York avec ses films.
Ouais, complètement. Ouais. Autant on peut
de
dire
Brooklyn que... même d'ailleurs. Plus ouais, Brooklyn plus, que New York.
Tout à fait. Ouais. On a coutume de dire que autant Woody Allen c'est Manhattan, Spike Lee c'est Brooklyn et Scorsese. C'est un peu la limite Little Italy, Chinatown. Mais c'est vrai que lui il a fait en fait il a c'est un cinéaste qui a positionné New York en objet cinématographique, qu'il a positionné, qu'il a filmé, qu'il a esthétisé, qu'il a magnifié, transcendé, en quelque sorte même une espèce de carte postale urbaine.
Alors le film Do the Right Thing ressort aujourd'hui en copie restaurée. Voir ce film aujourd'hui, Karim Madani, est-ce que vous est arrivé de le revoir ce film depuis sa sortie en 89?
Bah, je l'ai revu 2-3 fois en DVD, puis il y a pas très longtemps, il y a quelques semaines à la Fémis,
ouais.
Où c'était l'objet d'un ciné-club, et j'avais été invité pour en parler. Le film n'a pas du tout, surtout avec la nouvelle version remasterisée, restaurée, le film n'a pas pris une ride, c'est-à-dire que le film n'a pas vieilli, et ça c'est pas mal.
Pourtant, le rap a évolué, le quartier où se déroule le film lui-même a évolué, non?
Ouais, complètement. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que pour ceux qui connaissent un peu Brooklyn, même cette portion de Brooklyn, Bed-Stuy, aujourd'hui est très gentrifié en bourgeoisie. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en 89, je sais pas si vous vous souvenez de la scène où on voit John Savage avec son vélo. qui est un blanc avec un vélo comme les hipsters d'aujourd'hui ont, mais déjà en 89 il avait annoncé la gentrification de Brooklyn. C'est vrai que cette scène est vraiment drôle, au-delà de la fameuse séquence de la Jordan,
voilà,
maculée. Cette scène est très drôle.
Et comment a évolué Spike Lee à partir de Do the Right Thing? Parce que l'enfant terrible, celui qui est revendicatif, qui fait un scandale au festival de Cannes, qui menace Wim Wenders, tout ça vous le rappelez dans votre livre d'ailleurs, Karim Madani, qui a des vrais problèmes avec Hollywood. Aujourd'hui, est-ce que Spike Lee s'est plus ou moins assagi, rangé?
Ah, Spike Lee, il a traversé, parce qu'il a connu quand même une grosse traversée du désert, et là je parle d'un point de vue cinématographique. Je pense que son dernier bon film, c'était la 25e heure. Il est revenu avec Inside Man, qui était pas mal. Il a essayé de tenter ce remake Old Boy, qui est assez inégal. Et là, il va revenir avec Chirac, un film donc, sur la guerre des gangs à Chicago, qui s'appelle Chirac, contraction de Chicago et de Irak.
Donc il quitte enfin New York et Brooklyn.
Ouais, il va à Chicago cette fois, ouais. Pour montrer qu'il y a eu plus d'homicides à Chicago que sur les terrains en Irak en 2013-2014. Donc ça s'annonce son retour. Apparemment, il revient vraiment dans une veine très, très assez explosive, comme il faisait dans Clockers. Mais sinon, Spike Lee a fait, il a fait quelques navets, il s'est perdu un peu en route, il a fait beaucoup de documentaires, beaucoup de pubs. À un moment, j'ai eu peur qu'il devienne la caricature de lui-même, comme souvent le cas. Il cabotine, il est toujours là au match des New York Knicks à supporter son équipe. C'est un cabotin. Enfin, il peut, voilà, l'idée c'était qu'il, enfin, moi, j'ai eu peur vraiment qu'il soit un peu la caricature de lui-même. Mais je pense qu'avec Chirac, les clips qu'il fait, d'autres univers, en fait, même avec ce qu'il avait fait pour Katrina, il réussit quand même à se réinventer, bon an, mal an, quoi.
Est-ce que Spike Lee, et plus précisément Do the Right Thing, qui a eu un certain succès en France, ont influencé le cinéma français, j'allais dire le cinéma de banlieue française, mais enfin vous m'avez compris, Karim Badani. Est-ce que aujourd'hui, de la haine à Divine, de Mathieu Kassovitz à Huda Benyamina, est-ce que on peut y voir aussi l'impact qu'a eu Spike Lee dans les années 90?
Ouais, bah en l'occurrence, il a pas du tout influencé la banlieue française, mais bien le petit milieu déjà un peu bobo parisien dont faisait partie Kassovitz. Alors ces mecs-là, en fait, qui allaient déjà à New York comme les Assassins et qui avaient un peu la chance de ramener des disques.
C'est pas faux, c'est avec plutôt Malcolm X qu'il a eu ce public de la banlieue.
Tout à fait. Alors qu'avec Do the Right Thing, il a eu ce public finalement parisien, mm-hmm, connecté au hip-hop, mais qui n'était pas forcément un public de classe populaire. Et donc du coup, bah, et par contre, Kassovitz le dit sans aucun problème, métis, librement inspiré de, enfin très très largement inspiré de Nola Darling. Et ensuite, Kassovitz a toujours fait des clins d'œil à Spike Lee, enfin voilà, donc la haine. Donc Kassovitz, c'est vraiment un héritier de Spike Lee. Ensuite, il y a eu plus ou moins après les Courtrages, mais Romain Gavras, qui aussi ont biberonné ça, les Cassel ont biberonné ça. Enfin, du coup, il a influencé une grande partie de ce type-là, ouais.
Karim Adani, merci d'être passé ce matin pour nous parler de Spike Lee à l'occasion de la ressortie de, on peut le dire, hein, c'est un de ses grands films, même avec Malcolm X, disons. Do the Right Thing en version restaurée. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et je rappelle aussi que vous venez de publier un livre, toujours chez Don Quichotte, cette fois-ci autour de la personnalité de Kanye West.